Vous êtes sur RTL. RTL Midi,
le 12-30,
avec Christophe Paco.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. En ce mercredi 17 février, une nouvelle prouesse médicale en France avec une greffe inédite d'utérus qui a permis la naissance d'un bébé la semaine dernière à Suresnes. C'est l'équipe du professeur Ayoubi qui a réalisé cette opération. Il sera notre invité dans 5 minutes. Pas de reconfinement en vue, selon le gouvernement, mais un secteur de la santé sous pression fera le point sur la situation sanitaire, justement en France, dès le début de ce journal. Dans un peu plus d'un an, la présidentielle et l'envie de nos dirigeants aujourd'hui d'instaurer, avant le traditionnel vote du dimanche, un possible vote par anticipation, par machine, dans certains bureaux la semaine avant l'élection. Et puis vous le savez, RTL et le groupe M6 s'associent avec le Secours Populaire Français pour venir en aide aux étudiants en difficulté. Grand appel aux dons lancé ces dernières heures pour soutenir des actions comme la distribution de produits alimentaires, hygiéniques ou une simple coupe de cheveux à 1 euro. On évoquera ce dispositif dans 20 minutes avec Christian Lampin. Il est le secrétaire national du Secours Populaire. Il sera avec nous en studio. La météo, bonjour Peggy Branch.
Bonjour Christophe.
Soleil et douceur au programme.
Et oui, pour ceux qui sont au sud de la Loire, le soleil est bien généreux cet après-midi. Sur la partie nord, ce sera un petit peu plus nuageux, mais avec quelques belles éclaircies par endroits. Et là où ça restera chargé avec quelques gouttées du vent, c'est vraiment en bord de Manche, entre la Bretagne et le Pas-de-Calais. Il reste également quelques grisailles sur les côtes de la Méditerranée et l'ouest de la Corse, mais pas grand-chose. Les températures, elles sont douces, de 9 à Langres à 19 à Biarritz, 17 à Bordeaux et Marseille et 13 à Paris et Caen.
A tout à l'heure, on parlera de demain et peut-être du week-end. Toujours aussi beau pour l'instant le week-end ?
Oui, toujours.
D'accord,
aussi.
Bonne garantie. Question du jour, présidentielle 2022, faut-il instaurer le vote par anticipation ? Vous dites oui à 25%, non à 65%. Bonjour Pascal Praume.
Bonjour Christophe, parce qu'on ne sait pas dans un an si nous serons sortis de cette crise et peut-être que ce vote par anticipation, il se justifiera. L'autre grand sujet du jour, vous l'avez dit, c'est venir en aide aux étudiants en difficulté. Donc si vous êtes étudiant, appelez-nous, racontez-nous vos difficultés, votre quotidien, la difficulté que vous avez à sortir, à remplir le frigo, à payer votre loyer et peut-être tout simplement à rencontrer des gens, j'allais dire à draguer. Comment tu dragues aujourd'hui quand tu as 20 ans et que tu es chez tes parents, par définition,
par réseau,
tu allais oui, mais dans le temps, oui, tu allais dans un bar, tu allais au cinéma, que sais-je, c'est très compliqué forcément. Vous pourrez nous donner évidemment votre avis, M comme magnifique, M comme merveilleux, M comme magique, M comme Mbappé, vous allez en parler dans une seconde. Peut-on encore regarder les films avec Richard Berry? Ça c'est une bonne question. Un téléfilm avec l'acteur a été déprogrammé de France 3 vendredi dernier. Est-ce que, en déprogrammant ce film, est-on en train de remettre en cause la présomption d'innocence? C'est une question
très bon sujet aujourd'hui encore. Pascal Praume avec vous, je suis à 14h30 tout à l'heure. Un seul numéro de téléphone, le 3210-3210.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Et pour débuter ce journal, tout d'abord, comme vient de l'évoquer Pascal Praume, comment ne pas revenir sur cette soirée galactique, comme l'a titré si bien le journal de l'équipe tout à l'heure, avec ce succès 4-1, bien sûr, hier soir du Paris Saint-Germain, hier en Ligue des Champions face au grand Barça, et à la clé, 3 buts signés, Kylian Mbappé.
Despacito.
Mbappé, le but ! L'égalisation du Paris Saint-Germain, signé ! Mbappé, le but ! Le but de Kylian Mbappé ! Et c'est le Paris Saint-Germain qui prend l'avantage de buts à 1 pour Mbappé, la frappe ! Le but ! Le but ! Le triplé de Kylian Mbappé ! Ce ballon, il finit dans la lucarne de Ter Stegen !
Despacito.
1, 2, Nicolas Georgerot, bonjour. Et hier soir, en l'absence de Neymar et de Di Maria, il assumait, Nicolas, plein son rôle de leader, Mbappé. Hein.
Oui, rôle de leader parfaitement endossé, parfaitement assumé en l'absence de Neymar et de Di Maria. Il a été le patron à 22 ans sur la pelouse du Camp Nou qu'il foulait pour la première fois de sa carrière et il a tout ravagé sur son passage. 24 buts en 41 matchs de Ligue des Champions, il y a pire, les temps de passage sont ahurissants et c'est une planète foot qui se met un peu plus à ses pieds. Ce n'est pas anodin d'ailleurs de voir la presse espagnole encenser le champion du monde, un pays qui a eu ou qui a toujours Cristiano Ronaldo, Messi sous ses yeux durant tant d'années. La comparaison se fait jugée d'elle-même. Messi, Mbappé, quel contraste hier soir en l'espace de 90 minutes. L'Argentin convoité par le Paris Saint-Germain, on le sait, et c'est un joueur de 11 ans, son cadet, qui vient lui donner la leçon. Alors c'est bien trop tôt pour le savoir, mais ça peut aussi cogiter dans les têtes de la direction parisienne sur la priorité à donner pour les saisons à venir entre prolonger à tout prix l'international français et recruter le sextuple Ballon d'Or.
Nicolas Jorgerot, envoyé spécial en Catalogne pour RTL, a noté ce soir un match en retard de Ligue 1, Marseille-Nice au Vélodrome, dans un drôle de contexte, avec une guerre ouverte en ce moment entre supporters et direction du club. Il est 12h35 et c'est une première médicale en France, une greffe d'utérus qui a permis la naissance d'un bébé, elle s'appelle Micha, c'est une petite fille d'1,845 kg, elle est née vendredi dernier à l'hôpital Foch à Suresnes, en région parisienne. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour.
Vous nous racontez comment ça s'est passé?
Et oui, la maman Déborah était née sans utérus, donc elle ne pouvait avoir d'enfant. Elle a été greffée il y a 2 ans. Elle a reçu l'utérus de Brigitte, sa propre mère. Une prouesse médicale donc qui donne de l'espoir à de nombreuses femmes.
C'est clair. Et cette équipe, évidemment, qui a réalisé cette opération, est avec nous aujourd'hui. Avec à sa tête Jean-Marc Ayoubi. Bonjour à vous.
Oui, bonjour monsieur.
Grande prouesse médicale, on le disait. Merci de réserver votre première interview à RTL, parce qu'on est toujours à chaque fois étonné par ces prouesses. On vient de l'expliquer avec Virginie Garin. Mais d'abord, avant de revenir sur l'opération elle-même, comment se portent la maman et le bébé?
La maman et sa petite fille, Micha, ainsi que l'équipe médicale, se portent très bien.
Tant mieux. Cette maman qui a 36 ans est née sans utérus. Elle avait reçu il y a combien de temps une transplantation de la part de sa maman?
Il y a à peu près 2 ans, le 31 mars 2019, elle avait reçu la greffe d'un utérus venant de sa mère. Et ça s'était très bien passé à l'époque. Et puis, elle devait recevoir l'embryon 1 an après. On attend toujours pour être sûr que l'utérus en question n'est pas rejeté par la receveuse. Et elle est tombée en plein dans la crise Covid où le centre était fermé. Donc, on a retardé le transfert d'embryon jusqu'au mois de juillet. Et au mois de juillet, elle a bénéficié d'un transfert d'embryon qui a marché du premier coup. Et elle a été enceinte, la grossesse s'est bien déroulée. On a été obligé de la césariser parce qu'elle avait une hypertension artérielle qui s'est développée progressivement.
Professeur Ayoubi, est-ce que c'est un organe compliqué à transplanter? Il y a beaucoup de petits vaisseaux autour d'un utérus. Est-ce que c'est même dangereux pour la receveuse, mais aussi pour la donneuse?
Bah écoutez, toute intervention chirurgicale est à risque. Il y a des interventions qui sont plus à risque que d'autres. La greffe d'utérus est assez compliquée. C'est une intervention qui est complexe par la vascularisation, par les vaisseaux, par la place de l'utérus. Il y a des risques pour la mère, il y a des risques moins pour la greffée, surtout le prélèvement qui est important. Mais cette intervention, cette technique chirurgicale n'a cessé d'évoluer, de s'améliorer. Et la vingtaine d'équipes qui travaillent à travers le monde sur la transplantation utérine font tout pour faire de cette intervention une intervention plus simple, moins compliquée et qui sera à la portée de beaucoup d'autres équipes. Notre équipe a participé à l'amélioration de cette technique et c'est maintenant une technique qu'on a développée à Foch en collaboration avec l'équipe suédoise qui est maintenant technique qui est utilisée par l'équipe suédoise et par d'autres équipes à travers le monde.
Justement, c'était en Suède qu'est né le premier bébé il y a 7 ans après une greffe d'utérus. Alors souvent, c'est un organe prélevé sur une personne décédée. Là, vous avez choisi la maman de la patiente, une donneuse vivante. Est-ce que les chances de réussite sont meilleures?
Alors, on peut faire les deux. Il y a plus de greffes à partir d'une donneuse vivante qu'à partir d'une donneuse en état de mort apparente. Il est plus facile de programmer une intervention de cette nature quand on sait qu'il y a une donneuse. On programme le jour, on programme les examens qui nous montrent s'il y a une compatibilité ou non entre la donneuse et la greffeuse et la receveuse. Mais il y a aussi des greffes qui sont faites à partir de patients en état de mort cérébrale. Est-ce qu'il y a plus... On a l'impression qu'il y a plus de réussite dans le cas de donneuse vivante, mais les deux peuvent se faire et seront... complémentaires.
Quand même, il y a une petite fille France sur 4500 qui naît sans utérus, donc c'est un espoir incroyable pour toutes ces femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, ou celles aussi qui ont subi une ablation de l'utérus parce qu'elles avaient eu un cancer, par exemple.
Alors, justement, vous avez parlé au tout début de votre interview de prouesses techniques, de prouesses médicales, oui. De prouesses chirurgicales. Je dirais plus qu'une prouesse, c'est l'aboutissement d'un long, d'un long parcours, d'un long projet de recherche qui a fédéré plus d'une vingtaine de chercheurs autour de cette thématique et qui donne beaucoup d'espoir à beaucoup de patientes. Il y a beaucoup de patientes qui naissent sans utérus, une naissance sur 4500, mais il y a beaucoup de patientes qui perdent leur utérus après un accouchement hémorragique, après un cancer à un âge jeune. Donc ça donne de l'espoir à beaucoup, beaucoup,
beaucoup de
patients.
On comprend bien, docteur.
Et ensuite, cette recherche n'a pas été uniquement focalisée sur la partie prouesse technologique, prouesse chirurgicale ou médicale. Elle a mobilisé des chercheurs sur des thématiques qui sont autour de la greffe pour l'amélioration de la technique chirurgicale et médicale, pour l'amélioration de la perfusion des organes transplantés, quel que soit l'organe.
C'est une vraie avancée, on le comprend bien, hein, professeur Ayoubi, en tout cas, de la part de votre service.
La reproduction, c'est pour le diagnostic de rejet d'organes. Donc en fait, il y a eu 3 thèses de médecine, 2 thèses de sciences, 5 master 2, 25 publications scientifiques.
Une énorme avancée.
Une mobilisation de toute une équipe. Au-delà de la prouesse chirurgicale et médicale, c'est une recherche qui continue avec la collaboration et la continuité avec les autres équipes dans le monde pour rendre cette technique à la portée de beaucoup d'autres équipes, pour faire bénéficier de cette technique beaucoup de patientes dans ce cas.
Merci professeur Jean-Marc Ayoubi. Une équipe d'M6 vous a suivi, on verra un document exclusif sur cette greffe et la naissance. C'est produit par Nova Productions, c'est donc pour Zone Interdite, une émission qui sera présentée évidemment dimanche soir 21h par Ophélie Meunier. On revient à la courbe sanitaire chez nous, les inquiétudes, merci à vous Virginie Garin. La courbe, on le sait, du moment est à la baisse. Tous les professionnels de santé ont reçu hier soir d'ailleurs un mail d'alerte de la part de leur ministère évoquant une situation pour le moins préoccupante. Et malgré aujourd'hui la tenue, une fois de plus, comme toutes les semaines d'ailleurs, d'un conseil de défense sanitaire, le gouvernement n'évoque toujours pas pour l'instant la piste d'un nouveau confinement. Et pourtant, Agathe Landais, bonjour à vous.
Bonjour.
Les soignants, depuis quelques heures, tirent la sonnette d'alarme.
Oui, et la Direction Générale de la Santé leur a donc envoyé hier soir une note destinée donc à tous les professionnels de santé. Cette note évoque, je cite, une progression importante du virus et de plusieurs variants. La situation épidémique est préoccupante, dit cette note, et cela fait craindre un niveau de saturation de l'offre de soins. La DGS recommande donc aux soignants d'anticiper et émet plusieurs recommandations, notamment aux médecins de ville. Elle leur demande de ne pas hospitaliser systématiquement leurs patients Covid et de favoriser, quand cela est possible, le maintien à domicile. Autre recommandation, elle interdit désormais formellement aux soignants positifs au Covid de venir travailler, notamment à l'hôpital. C'était jusque-là toléré dans des cas très exceptionnels, uniquement pour des personnels asymptomatiques, et alors qu'il était impossible de les remplacer à leur poste. Cela, c'est donc totalement interdit désormais. Cette nouvelle directive, pas franchement rassurante quant à la situation de l'épidémie, inquiète en tout cas les professionnels de santé. Ils sont nombreux à s'étonner de recevoir toutes ces nouvelles consignes, oui. Alors même, vous l'avez dit, que le gouvernement n'envisage toujours pas de durcir les restrictions sanitaires.
C'est clair, on va en parler avec vous sur le 3210-3210. Merci Agathe Landais, service santé d'RTL. Et puis c'est jusqu'à ce soir minuit que les médecins généralistes peuvent réserver leur dose de vaccin pour vous auprès de leur pharmacie et leur pharmacien. Mais visiblement, on ne se bouscule pas au portillon ces derniers jours, dernières heures des officines. Jean-Paul Ortiz, médecin et président de la Confédération des syndicats médicaux français.
Ça n'a pas été anticipé. On a reçu les instructions venant de la DGS vendredi soir. Donc c'est vrai que ça prend un petit peu de temps pour l'inscription dans les pharmacies, mais les médecins généralistes sont très mobilisés. Ils sont très demandeurs d'avoir des doses facilement et vite dans leur cabinet. Ils sont très volontaires pour vacciner dans les centres de vaccination qu'ils ont d'ailleurs eux-mêmes organisés. C'est un problème logistique qui est longue, lourde, et il faut s'inscrire avant pour avoir la dose 8 jours après, c'est quand même pas complètement simple. Donc c'est en train de se faire et j'appelle tous les médecins généralistes à le faire le plus rapidement possible.
Oui, d'ici minuit, Jean-Paul Ortiz avec Grâce Le Plat pour RTL. Et rappelons-le, c'est à partir du 25 février que les médecins pourront administrer ce précieux vaccin. C'est le vaccin AstraZeneca qui a été choisi pour vos médecins de famille. Dans un instant, la politique en France. Et dans un an, un peu plus, vous pourrez peut-être voter par anticipation, soit toute une semaine avant le traditionnel dimanche aux urnes.
RTL Midi
avec Christophe Paco.
Dans un peu plus d'un an, le premier tour de la présidentielle en France, avec cet amendement de dernière minute déposé par le gouvernement et qui a surpris tout son monde. Un vote par anticipation, la semaine avant le traditionnel, je vous le disais, dimanche aux urnes. C'est une première en France qui s'achemine. Marie Mollet, bonjour.
Bonjour.
Alors, des machines à voter qui vont être installées. Est-ce qu'il y aura plus de lecteurs? C'est une question qu'on peut se poser. Et qu'en pensent les Français? Sont-ils plutôt favorables ou non? Vous avez rencontré ce matin de possibles électeurs parisiens.
Oui, plutôt favorables, ils étaient, puisque effectivement, étaler le vote sur une semaine, c'est même une idée brillante pour Karine, pour éviter la foule des dimanches de scrutin.
Écoutez, je trouve ça très pratique, pragmatique, dans la mesure où ça évitera à un nombre important de personnes d'être au même moment devant les urnes, c'est tout. Donc peut-être éviter la propagation du virus.
Voter par anticipation, d'accord, mais pourquoi faire? Le gouvernement assure que cela ferait chuter l'abstention, mais Gilles en doute.
Si vous avez envie de voter, vous allez vous déplacer, vous allez vous donner les moyens. Si vous n'avez pas envie, vous allez rester comme vous êtes, même une semaine avant, un mois avant. Mais contre l'abstention, je vois pas comment ils peuvent lutter.
Pas d'opposition de principe pour Solange, mais elle suspecte une manœuvre du gouvernement, une arrière-pensée électoraliste. Elle aimerait savoir laquelle.
Par anticipation, ça ne me gêne pas. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi cette proposition. Simplement, je voudrais comprendre quel est leur intérêt. Parce que pour moi, les politiques, s'ils proposent cette proposition, c'est qu'ils ont un intérêt quelque part.
Quant aux machines à voter, c'est le progrès, disent la plupart de ces électeurs, à condition d'un contrôle strict. Bulletin papier ou électronique, après tout, glisse l'un d'entre eux, il y a toujours eu de la triche.
Merci beaucoup Marie Mollet, service politique d'RTL. Verdict attendu dans le procès en appel de l'ex-secrétaire d'État Georges Tron pour viol et agression sexuelle, rappelons-le. Il avait été acquitté en première instance. Hier, le ministère public a requis 5 ans d'emprisonnement, dont 3 avec sursis. Le jury de la cour d'appel délibère en ce moment. Cindy Hubert est sur place et on devrait connaître cet après-midi l'épilogue donc de cette affaire vieille de presque de 10 ans maintenant. Puis une affaire qui n'est pas sans rappeler celle de Youri, cette adolescente abassée à Bougrenelle à Paris, il y a un peu plus d'un mois par une bande de jeunes. Hier après-midi, à Corbeil-Essonne, un garçon de 18 ans était violemment agressé, tabassé sous les yeux de son père. Là aussi, on parle d'une rivalité entre quartiers. Dans un instant, on parle solidarité, bien évidemment, sur RTL. Avec notre invité, c'est le secrétaire national du Secours populaire, Christian Lampin. Tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christophe Paco.
C'est le coup de cœur RTL du jour.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et aujourd'hui, RTL, le groupe M6, vous le savez, s'associe avec le Secours Populaire Français pour venir en aide aux étudiants en difficulté en mettant en avant toutes les actions du Secours Populaire partout en France. Avant de recevoir notre invité, coup de cœur en région aujourd'hui sur une initiative en Moselle, justement, où le Secours Populaire de la région distribue des colis alimentaires aux étudiants. Entre 100 et 200 bénéficiaires viennent chaque semaine remplir leur sac de provisions, que ce soit pour la nourriture ou pour l'hygiène, hein, Dimitri Ramelou.
Parmi les premiers dans la file d'attente sur le parking du campus, Yassir, un étudiant franco-marocain de 23 ans.
Avec le confinement et tout, on n'a pas vraiment beaucoup de ressources pour travailler à temps partiel.
Donc vous n'avez pas d'argent?
Presque le montant du loyer. Et ça me donne au moins 5-6 jours de nourriture.
Et après s'être inscrit sur la liste des bénéficiaires...
Bonjour. Et l'Azab, oui. Yassir. Oui.
Allez-y, gardez les distances.
Direction les 3 tables de distribution gérées par Ludovic.
Manu, je vais t'expliquer en fait la composition du sac d'aujourd'hui. Le lait, on a la soupe, le velouté de légumes. Ensuite, on a le sucre, on a des pâtes. Et après, on envoie les filles... à la camionnette à côté, ils vont chercher les produits d'hygiène.
Bonjour, un peu de lait?
Oui, pour 2 personnes, bien sûr.
De la ratatouille?
Oui. Oui.
Est-ce que tu veux du beurre?
Près d'une centaine d'étudiants va profiter de l'opération en moins d'une heure et demie de présence des 2 camions baptisés Solidaribus du Secours Populaire de la Moselle présidé par Marie-Françoise Tulle.
Dès le confinement, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème. D'abord, les restos ont fermé. Il y avait toute une catégorie d'étudiants qui n'avaient pas mangé depuis 3 jours.
L'équipe ainsi que les 2 camions lèvent le camp pour se rendre sur le parking d'un autre campus où plusieurs dizaines d'étudiants attendent déjà par moins 4 degrés. Le Secours Populaire sera de retour ici chaque semaine jusqu'à la fin de la pandémie.
Bonjour Christian Lampin. Bonjour. Vous êtes le secrétaire national du Secours Populaire. Quand on écoute ce genre d'initiative, c'est presque devenu malheureusement peut-être presque commun. Vous l'écoutiez avec intérêt évidemment ce sujet de Dimitri Ramelot, mais on a l'impression qu'au-delà de vous faire chaud au cœur, on a peur que ça se poursuive longtemps.
Eh bien oui, écoutez, la situation malheureusement est plus que catastrophique à ce jour. Puisque dès le premier confinement, à partir du mois de mars et avril de l'année dernière, déjà on a senti au Secours Populaire arriver de nombreuses personnes Et dans ces publics nouveaux, plus de 45% de personnes qui fréquentent qui ne fréquentaient pas l'association sont venues frapper aux portes du Secours Populaire. Eh bien, on a vu arriver de nombreux jeunes et des étudiants, notamment, qui étaient en grande situation et de difficulté.
Il n'y a pas que se nourrir, le souci, même si c'est la base, hein, c'est presque une obligation, malheureusement. Heureusement, il y a plein d'opérations de solidarité, les Restos U, des supermarchés qui font des remises, des tickets restaurants et autres. Aujourd'hui, il manque aussi des vêtements et le matériel informatique qui est si important aujourd'hui pour les jeunes, pour leur éducation.
Tout à fait, vous avez raison de parler que l'aide apportée par le Secours Populaire, évidemment, n'est pas essentiellement axée sur la nourriture. C'est aussi, pour grande partie, d'accueillir d'abord les jeunes, parce qu'il y a une détresse psychologique qui est de plus en plus frappante.
Ça revient souvent, cette détresse psychologique.
Donc maintenant, c'est un fait. Maintenant, plus personne ne peut en douter. Écoutez, au Secours Populaire, donc, l'idée, c'est d'abord d'accueillir ces jeunes, de leur proposer des actions, de les écouter, et puis de venir en aide pour des actions très concrètes. Vous savez, les jeunes sont à la fois dans le besoin, ils ont des difficultés, la nécessité, c'est d'intervenir auprès d'eux, mais c'est aussi de leur proposer des solutions pour maintenir du lien social, et pourquoi pas venir aussi en aide, on mobilise les jeunes aussi sur les actions de solidarité.
Parce que le lien social ou amoureux, comme disait tout à l'heure Pascal Praud, avec qui vous allez pouvoir dialoguer au 3210 tout à l'heure, ils ont besoin de ce petit monde à eux, parce que c'est pas simple, c'est une année courte en plus université, et souvent on travaille à côté, là on ne peut pas.
Complètement, la pandémie et la crise sanitaire donc a amené les jeunes à ne plus pouvoir effectivement exercer ce qu'on appelle les petits boulots, hein, pour tout simplement financer leurs études. Beaucoup d'entre eux sont éloignés de leur lieu familial, ils sont plus dans le foyer, ils sont donc dans les résidences universitaires, ils sont donc aux portes des universités, ils n'ont pas pu aller fréquenter les lieux qu'ils avaient l'habitude, les bibliothèques, les lieux d'échange, les TD par exemple, hein, ils n'ont pas pu faire un certain nombre d'activités,
travaux
donc ils sont complètement isolés, et donc on voit beaucoup de jeunes qui sont malheureusement aujourd'hui en détresse psychologique.
Mais plein de jeunes qui voulaient s'évader, partir à l'étranger, qui ne peuvent pas non plus.
Complètement.
On travaillait même à l'étranger, pas uniquement pour le plaisir. Hein.
Oui, bien sûr. Et dans ces jeunes, on a aussi, à l'inverse, les jeunes internationaux. Hein, tous ces jeunes qui viennent en France faire leurs études, qui ont été complètement isolés, n'ont pas pu repartir chez eux. Le billet d'avion coûte trop cher. Et donc, on retrouve malheureusement au Secours Populaire beaucoup de ces jeunes. Donc, on les accompagne, bien sûr, de façon très matérielle. Mais encore une fois, l'idée, c'est de les accompagner aussi sur le psychisme.
Le psychisme, on en a parlé, j'écoutais une psy ce matin avec Yves Calvi aussi, il faut pas négliger, ou Michel Simès le disait, notre docteur aussi, voilà, peut-être qu'on réapprend une autre façon de se parler aussi, peut-être de s'interroger avec des gens qui sont là pour nous aider. Pour faire des dons, on le rappelle, c'est le site, il est très simple, du Secours Populaire, c'est don, avec un point, don au singulier, don.secourspopulaire.fr/RTL derrière, qui va bien aussi. On va continuer toute la journée à en parler, hein, vous le savez.
Oui, bien sûr. Alors, tout compte, c'est ça qui est important, effectivement. Donc, merci de nous donner la parole et de faire le focus aujourd'hui sur cette précarité étudiante. Mais il est bien évident que pour le Secours Populaire, on ne peut pas aider si on n'a pas les financements derrière. Et donc, c'est très important qu'on puisse collecter un maximum d'argent pour faire de la solidarité.
On va reparler avec Pascal Praud. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous. 3210, 3210, sans oublier d'autres invités du Secours Populaire aujourd'hui avec Vincent Parizeau dans RTL Soir à 18h. Et entre 22h30 et minuit 30, votre émission d'écoute et d'entraide de la soirée. Parlons-nous avec Caroline Dublanche, là aussi, pour témoigner. Un seul numéro, comme le midi, le 3210, Pascal.
Ce qui est frappant quand même, c'est qu'il aura fallu des semaines, des mois pour entendre cette souffrance-là. Donc quand on en parlait, nous, on nous disait, ça n'existe pas. La santé, c'est pas simplement ne pas avoir le Covid. Et ça, ce qui est audible depuis un mois ou un mois et demi, ne l'était évidemment pas de mars à juin, ne l'était pas cet été, ne l'était
encore
pas à l'automne.
Après, on s'est beaucoup occupé des anciens en priorité, avant de s'occuper des jeunes, peut-être.
Oui, mais je parle même pas ça. Je dis la santé, c'est pas simplement ne pas avoir le Covid. Il y a plein d'autres paramètres qui
quand
définissent.
Quand on parle de détresse psychologique, c'est
bien sûr. Ouais. Ben, c'est ce que je veux vous dire.
Ouais, j'ai bien entendu. Dites-le.
Bon, Mbappé, on va parler d'Mbappé.
Oh, bah,
qui a l'âge d'être étudiant, mais il est déjà
22 ans, 24 buts en Ligue des Champions.
Effectivement, donc on parlera d'Mbappé. On parlera également, si vous le souhaitez. Peut-on regarder les films avec Richard Berry ? Ça, je trouve que c'est un sujet vraiment qui nous intéresse. Le téléfilm avec l'acteur a été déprogrammé de France 3 vendredi dernier. Parce qu'en déprogrammant ce film, on est en train de remettre en cause la présomption d'innocence. Et puis, faut-il instaurer le vote par anticipation ? Ça aussi,
oui, ça, c'est
un bon
sujet. Ça va. Mais c'est pas mal. Comme vous l'avez dit si bien tout à l'heure dans vos propos liminaires, en début de journal, c'est vrai que l'an prochain, nous ne sommes pas.
Nous ne sommes pas où nous serons. C'est ce que vous voulez dire.
J'allais presque dire ça. Mais la situation, on espère tous, sera revenu à la normale. Ce sera le monde d'après.
Paris.
Le monde d'aujourd'hui pour la météo, c'est avec Peggy Broche. Grande douceur aujourd'hui encore à peu près partout.
Oui, de la douceur partout et du soleil qui va s'imposer sur une large partie sud du pays. Au nord de la Loire, c'est un peu plus variable.
variable entre nuages et éclaircies. En revanche, ça reste couvert avec quelques gouttes et du vent en bord de Manche. Et le vent également sur les Pyrénées-Atlantiques, quelques grisailles localisées, vraiment localisées sur les côtes du Roussillon ou la Côte d'Azur et la Corse. Les températures sont encore très douces pour la saison. 9 degrés à Langres, 11 à Metz, 13 à Paris et Orléans, 14 à Nantes et Lyon, 17 à Perpignan, 18 à Toulouse et jusqu'à 19 à Biarritz.
Et je le sais, on le confirme évidemment, ce week-end il fera très beau. Merci à vous, Peggy Broche, pour ces prévisions qui nous enchantent. On va passer un bon week-end, enfin, ça nous fera du bien dans cette période de vacances qu'on vous souhaite très belle, si vous l'êtes d'ailleurs en vacances. Dans deux minutes maintenant, vous avez la parole. 3210, 3210 pour dialoguer comme tous les jours dans RTL Midi avec Pascal Praud.
RTL Midi.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Parole d'étudiants toute la journée sur RTL et sur le groupe M6. Parce qu'effectivement, il faut les écouter et pourquoi pas les aider. Bonjour Lucas.
Bonjour Pascal.
Vous avez 21 ans, vous êtes dans le Vaucluse. Dans quel état mental vous êtes ?
Une grosse période d'incertitude.
Eh bien, on va en parler dans quelques secondes. Christophe Paco, qui fut étudiant jadis.
Il y a longtemps,
oui.
Comme vous.
Un peu plus, oui. Un peu plus,
à Nice,
peut-être.
Très belle université au soleil.
Il y a une plaque, d'ailleurs, dans l'amphi où vous avez,
oui.
Où vous avez appris.
Paco, le pro.
Voilà, facho. Facho.
Ça va pas.
Le flash.
Ah, le flash.
Pas facho,
le flash de Paco, si vous voulez. Ça arrive.
Allez-y.
Une nouvelle prouesse médicale en France. On a parlé tout à l'heure avec le professeur Ayoub, avec une greffe inédite d'utérus qui a permis la naissance d'un bébé. C'était la semaine dernière à Suresnes. La santé, encore et toujours, un nouveau conseil de défense qui devrait entériner le statu quo face à l'épidémie de Covid aujourd'hui chez nous, avec des contaminations qui se sont stabilisées à un niveau assez élevé tout de même. Le choix de ne pas confiner, de parier sur le couvre-feu à 18h semble pour l'instant rester la ligne de le maître mot de l'exécutif. Couvre-feu toujours à 18h, on ne change rien. Les hôpitaux restent formellement fortement sollicité, comme l'a fait remarquer une note de la Direction Générale de la Santé qui évoque une situation tout simplement épidémique plutôt préoccupante. Et puis les négociations commerciales annuelles font rage, vous le savez, en ce moment, entre la grande distribution et ses fournisseurs. Les accords pour fixer les prix dans vos rayons au cours de ces prochains mois doivent être signés d'ici le 1er mars minuit, et c'est très très chaud entre les professions d'agriculteurs et bien évidemment les grands géants de la distribution. Pascal,
je dois être un peu fatigué parce que j'ai voulu dire le flash,
oui.
Et j'ai fait une contraction entre flash et Paco.
C'est un néologisme.
Voilà, donc je évidemment n'y voyais aucune attaque personnelle.
Je n'avais rien senti de tel.
Bien évidemment. Il est 13h02, on est donc avec Lucas.
Les auditeurs ont la parole.